L'évangile pour le couple.
L'évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voilà pour une nouvelle émission, l'évangile pour le couple. Et Maud, qu'est-ce qu'on aborde aujourd'hui?
Alors, un évangile que tu as appelé l'évangile du Talitha Koum.
Oh là là.
On va voir de quoi il s'agit.
Alors, il faut rappeler, Maud, que nous avons, pendant ces deux émissions, donc celle-ci et la précédente, nous avons abordé des sujets importants, très importants, pour les parents chrétiens. C'est éduquer à la vie spirituelle, conduire nos enfants, tenter de conduire nos enfants vers le Christ. Et donc, la dernière fois, nous avons abordé l'évangile de Jésus à 12 ans. Et donc aujourd'hui, nous allons aborder cet évangile avec la fille de Jaïr. Alors, tu veux nous rappeler, Maud, ce qui se passe et puis nous lire justement les quelques versets principaux de ce magnifique évangile qui est dans le cinquième chapitre de l'évangile de Marc.
Oui, alors il s'agit d'un chef de synagogue, Jaïr, qui va voir Jésus pour lui dire que sa fille est très très mal et qu'il faut absolument qu'il vienne la voir. Et qu'il vienne lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà ce qu'il demande. Et Jésus, traîne un peu et puis finalement arrive à la maison. Et dans l'intervalle, la petite fille est décédée. Et donc Jésus lui dit, sois sans crainte et simplement la foi. Arrivant à la maison, il aperçoit du tumulte, les gens qui pleurent et poussent de grandes clameurs. Jésus met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'accompagnent. Puis il précède là, il pénètre là où reposait la jeune fille. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Ils en furent complètement bouleversés.
Voilà, c'est un évangile absolument magnifique, magnifique, et c'est un évangile pour nous du mariage et de la famille particulièrement éclairant. Et on va essayer de reprendre, Maud, cet évangile au fur et à mesure. Et d'abord aborder, souligner d'abord que c'est vraiment le souhait, de tout parent qu'on retrouve dans ce que Jaïr dit à Jésus. Il dit, ma petite fille est à toute extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà, c'est le désir de tout parent croyant ou incroyant que mon enfant vive et soit sauvé. Que mon enfant goûte le bonheur. C'est quelque chose c'est une réalité qui est une réalité anthropologique. Qu'il vive et qu'il connaisse ce bonheur. C'est un appel intérieur. Et en tant que croyant, eh bien, effectivement, c'est qu'ils vivent, et comme nous connaissons le chemin du bonheur, qui est le Christ, qu'ils vivent et qu'ils te connaissent, qu'ils vivent et qu'ils soient heureux. Et donc, c'est notre première prière de parents à Dieu, croyant ou incroyant, nous désirons pour lui le bonheur. Voilà. Et c'est là où le Christ, Maud, répond aux parents.
Oui, il dit « Sois sans crainte et simplement la foi ». Alors ça, c'est vraiment une parole qui est à la fois pleine d'espérance, à la fois exigeante pour nous, terriblement exigeante. Est-ce que ça veut dire que notre foi est engagée aussi dans ce projet, que nous avons
Du bonheur de notre enfant.
Si nous voulons que notre enfant soit heureux, bien sûr, nous allons mettre tout ce que nous pouvons comme moyens pratiques, humains, et tout ce qu'on peut imaginer. Mais on va surtout solliciter notre foi pour intercéder pour notre enfant, pour l'aider à grandir dans la foi, dans la vie spirituelle, pour qu'il rencontre le Christ sauveur de sa vie et qu'alors le bonheur lui soit donné.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très important. C'est une vigilance constante que nous devons avoir comme parents. Et on regarde vraiment à la fois de notre parcours, de notre propre expérience. On doit toujours se rappeler que c'est vraiment au nom de la foi que nous conduisons, je dirais, notre ministère de parents, mais aussi pour avoir accompagné des parents, entendu partager leurs témoignages, leur expérience, leur parcours. C'est vraiment une importance d'avoir constamment la foi, et que c'est la foi qui soit notre ligne de mire dans la conduite de notre éducation et de l'éducation auprès de nos enfants.
Alors, on peut aussi regarder l'autre étape qui consiste à dire, quand l'enfant est vraiment très mal, comment est-ce que Jésus intervient? Parce que quand il arrive, cette petite fille est décédée, et Jésus, alors à ce moment-là, a un comportement qui est pour nous très signifiant. Il met tout le monde dehors.
Oui. Alors là, carrément... il arrive, enfin, on vous rappelle, il arrive, tout le monde, il y a tous les repas, vous savez, vous avez tel ou tel problème dans la famille, etc., etc., et vous avez la belle-mère, les cousins, les amis, et tout le monde s'en mêle, etc., tout ça c'est très gentil, mais ça fait beaucoup, beaucoup de monde, et tout le monde donne des avis différents et contradictoires, etc., etc.
Voilà, donc qu'est-ce que Jésus nous donne comme indication? D'abord, il met tout le monde dehors, il fait le silence, et puis il prend les parents avec lui. C'est-à-dire qu'il associe les parents dans l'événement qui va se produire. Il prend les parents pour rentrer dans la chambre de la jeune fille. Donc nous, quand on a lu ce texte, la première fois où on a essayé de méditer pour voir qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire à travers ce texte, on s'est dit, il y a quelque chose de très signifiant, c'est que les parents font rentrer Jésus dans la chambre de l'enfant. C'est-à-dire que leur volonté est bien que le Christ intervienne dans la vie de leur enfant, et que les parents vont introduire le Christ dans la chambre de l'enfant. Ça veut dire à l'intérieur même de la famille, à l'intérieur même de notre relation familiale, nous allons convoquer le Christ.
Et plus encore que c'est pas simplement dans la maison, c'est dans la chambre de l'enfant. Donc c'est vraiment son espace le plus intime. Mais Jésus ne le fait qu'avec l'autorisation des parents, et il emmène les parents avec lui. Donc il y a une profonde collaboration dans le ministère d'inviter Jésus dans le cœur, dans l'intimité de notre enfant. C'est une profonde collaboration entre Jésus et les parents. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Donc ça veut dire, ça nous interpelle chacun de nous en tant que parents. Comment nous avons sollicité Jésus pour qu'il vienne vraiment visiter le cœur, la chambre haute, la chambre intérieure de chacun de nos enfants.
Voilà, et avec les parents, Jésus prend ceux qui l'accompagnaient, c'est-à-dire les trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Donc ça veut dire qu'il associe aussi dans ce travail intérieur, si je puis dire, de croissance intérieure, de vie intérieure de l'enfant, puisqu'il s'agit de vie et de mort, là, il associe les disciples, ceux qui représentent l'Église et ceux qui ont un ministère. C'est-à-dire que les parents sont aussi appelés à s'appuyer sur l'Église pour vivre ce ministère. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi en Église des frères et sœurs prêtres, consacrés, autres familles amies dans le Seigneur, qui vont aussi s'associer à ce travail d'enfantement dans l'esprit.
Dans la mesure vraiment, où effectivement ils confessent la foi. Et c'est ça qui est très important, c'est que nous sommes les premiers évangélisateurs de nos enfants, éducateurs de la foi de nos enfants, mais nous devons associer vitalement l'Église. Parce qu'à un moment, nos enfants, notamment à l'adolescence, ont besoin d'avoir d'autres références que celles de leurs parents. On sait tous très bien, pour avoir fait un minimum de psychologie, que les enfants ont besoin de se construire à des moments contre leurs parents pour acquérir l'âge adulte. Donc à un moment, ils doivent vraiment être accompagnés également par d'autres adultes et aînés dans la foi pour montrer que le Christ n'est pas simplement la vérité de papa et maman, mais la vérité de tout homme. Voilà. Et le Christ est intéressant si c'est la vérité de tout homme, et ça, pas simplement de papa et maman ou d'Alex et Maud ou de Pierre et de Claudine.
Voilà. Et alors donc, quand Jésus est arrivé dans cette chambre, accompagné des parents et d'une partie de l'Église, si je puis dire, du ministre de l'Église, il va là où repose la jeune fille. Donc ça veut bien dire que nos enfants sont parfois dans une sorte de repos. Il ne se passe rien, là, il n'y a pas grand-chose qui se passe, et nous allons éveiller en eux la vie avec le Christ. Donc le Christ saisit la main de l'enfant. Alors c'est vigoureux, hein, il va pas des petits câlins, et il faut pas s'étonner de temps en temps que le Seigneur, il intervient parfois dans la brise légère, mais parfois de façon vigoureuse. Donc il saisit la main de l'enfant et lui dit cette fameuse parole, Talita cum.
Mais ça on va y venir au Talita cum. On va y venir où effectivement ça va être la bascule de sa vie, on verra ça dans la deuxième partie de l'émission. Mais encore important de bien montrer que Jésus pénètre là où reposait la jeune fille. Donc là où vraiment est l'essentiel de sa vie. Et il saisit sa main, il saisit nos vies. Et nous avons vraiment à conduire et à accompagner Jésus à aller rencontrer notre enfant dans cette intimité et dans cette proximité de lui. Voilà, et que nous avons à rendre Jésus proche. Hein, quand Jésus vient là où on repose, là où il nous prend notre main, alors véritablement, le Seigneur est proche de nous et proche de notre enfant. On laisse passer un chant de louange, et après on rentre dans le cœur de l'événement avec la fille de Jaïr. A tout de suite.
The greatest love that anyone could ever know, it overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. And all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart I pray you let your will be done. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. And I will live to love you. I will live
to. Voilà, nous revoilà dans cette émission L'Évangile pour le couple pour aborder ce très bel évangile de la fille de Jaïr. Maud, alors on est dans ce passage déterminant où Jésus a pénétré dans la chambre de la jeune fille qui est décédée avec ses parents et avec trois autres apôtres. Et alors là, il se passe... Que se passe-t-il ?
Voilà, il y a ce moment où Jésus saisit la main et s'adresse à la jeune fille. « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Nous, ce qu'on a vraiment compris en lisant ce texte, c'est que Jésus s'adresse ainsi à chacun de nos enfants. Un tel, voilà, Matthieu, Marc, Françoise, peu importe le prénom. « Je suis là pour toi, lève-toi. J'ai donné aussi ma vie pour toi. » Relève-toi. Et on sait très bien que dans la parole de Dieu, ce lève-toi, c'est en général le signe de la résurrection. Ce qu'on dit Jésus, c'est relevé d'entre les morts. Donc à chaque fois qu'on se relève, c'est une vie. Jésus nous met debout, en fait. Et il veut mettre aussi nos enfants debout. Faire de nos enfants des êtres libres, adultes, debout. Des hommes et des femmes debout. Et c'est il n'y a que lui qui puisse bien le faire. Et c'est là où c'est intéressant, parce que nous, parents, nous aimons bien avoir ce projet de faire de nos enfants des adultes libres, debout. Or là, le Christ est en train de dire, c'est moi qui relève l'enfant, c'est moi qui le mets debout.
Alors, c'est très important cette question de la liberté, parce que je crois que l'homme moderne aujourd'hui, quand il éduque ses enfants, il veut les éduquer à la liberté, à la culture, l'adapter au monde, etc., etc. Et je crois que cette recherche, elle est profondément juste. Mais justement, nous avons à prendre conscience que la plus grande des libertés à laquelle nous pouvons conduire nos enfants, c'est pas en leur faisant faire HEC, Polytechnique ou l'ENA, c'est tout à fait possible de passer par là pour acquérir la liberté. Hein. Mais c'est surtout de rencontrer le Christ. C'est la rencontre du Christ vivant, c'est de l'accueillir... Pas simplement intellectuellement, mais justement quand le Christ dit « Je te le dis, lève-toi », c'est bien pour montrer que le Christ agit dans la vie concrètement et l'a fait relever, le fait passer de la mort à la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, fondamental. Et que nous avons un trésor à confier à nos enfants et à conduire nos enfants à ce que le Christ, à ce qu'ils puissent entendre. Claudine, Jacques, etc. Lève-toi. Moi, le Christ, je te le dis, lève-toi.
Voilà, c'est tout le sens du baptême, c'est tout le sens de la vie spirituelle, d'enfanter les enfants à la vie de prière, etc. C'est parce que pour nous, c'est un chemin de vie. Comme on disait souvent à nos enfants, bah, si jamais demain tu devenais anorexique, je me précipiterais à l'hôpital. Eh bien là, l'anorexie, c'est au niveau spirituel. Si tu ne te nourris pas au niveau spirituel, ben, je vais me bouger et me précipiter à l'hôpital du Christ, c'est-à-dire dans l'église, pour trouver de l'aide, du soutien, parce que tu as besoin de nourrir ta vie spirituelle, ta vie intérieure, pour rencontrer le Christ et acquérir cette liberté d'enfant de Dieu.
Je crois que c'est quelque chose de très important, là encore, que tu soulignes, Maud. Et je me suis bien rendu compte dans le processus d'éducation de la foi de nos enfants ou de d'autres enfants, etc., c'est que nous avons vraiment à nous rendre compte que si jamais ils n'accueillent pas le Christ, s'ils ne se nourrissent pas du Christ, alors il y a un processus vital qui est en jeu, effectivement. Si jamais ton enfant refuse d'aller à l'école, tu vas te bouger, tu vas remuer ses lettres, tu vas aller voir des psychos, il va se passer quelque chose. Si jamais il mange pas, s'il boit pas, s'il fait pas de sport, s'il respire plus, s'il ne dort pas, etc., tu vas réagir, tu vas remuer ses lettres. Mais si notre enfant ne rend compte par le Christ, est-ce qu'on va remuer ses lettres? Est-ce qu'on va remuer ses lettres? Est-ce que nous sommes conscients de l'importance que notre enfant entende Jésus, jeune fille, jeune homme, lève-toi. Bien sûr, c'est avec un processus qui lui est propre, avec une pédagogie qui lui est propre, mais tout ça c'est pour souligner combien nous sommes, en tant que parents, associés fondamentalement au processus évangélisateur. C'est pas un petit plus, c'est au cœur de notre ministère.
Oui, d'ailleurs c'est très amusant parce que quand la jeune fille se lève, la parole de Dieu dit, aussitôt elle se leva et elle se mit à marcher. C'est-à-dire que ça y est, elle prend sa vie en main, elle y va, elle part dans la vie. Elle montre que cette énergie qu'elle a reçue, cette vie qu'elle a reçue du Christ, c'est pas pour rester immobile sur son lit, c'est pour se lever et marcher. Donc nos enfants, si nous voulons qu'ils marchent dans la vie, qu'ils aillent dans ce que le Seigneur attend d'eux, dans ce projet qu'ils ont, qui est le leur, qu'ils ont envie de réaliser, dans leurs rêves, dans enfin tout ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, si on veut qu'ils marchent, il faut qu'ils soient debout, donc relevés par le Christ et envoyés par le Christ. Et ça c'est magnifique quand on voit un enfant qui, ayant rencontré vraiment la présence de Dieu dans sa vie, prend sa vie en main. Parce qu'à ce moment-là, il a une énergie qui est absolument extraordinaire. Il a un sens à sa vie. Et tous ces jeunes qui courent les études, l'école, toutes ces choses avec lassitude, sans souffle, sans énergie,
qui partent dans des fêtes complètement déjantées, etc. Je veux dire, nous avons la joie à la fois, bien sûr, en tant que parents, mais aussi de par notre ministère auprès des jeunes, d'écouter beaucoup de leurs confidences, croyants ou incroyants. Mais de se rendre compte, notamment chez les croyants, ils disent, mais c'est incroyable, depuis le jour que nous avons rencontré le Christ, que nous vivons avec le Christ, mais nous nous rendons compte, mais vraiment de la recherche, mais tous azimuts, à se taper la tête contre les murs, au niveau des fêtes, au niveau de recherche d'argent, etc., de nous rendre compte que quand nous n'avons pas rencontré le Christ, nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Et que la vraie liberté, c'est concret, c'est pas, on fait pas de la philosophie, on fait pas de la théorie, mais que la vraie liberté, c'est de vivre avec le Christ.
Oui, c'est pour ça que quand on entend tous ces jeunes qui n'ont pas de sens à leur vie, quelque part, en tout cas pour moi, j'ai mes entrailles de mère qui se serrent de compassion, de cette tristesse dans laquelle ils sont, parce qu'ils n'ont pas envie de marcher, parce qu'ils ne savent pas où ils vont. Or, ce qui donne un sens à sa vie, ce qui donne envie d'avancer, c'est bien d'avoir fait cette rencontre vers celui qui est notre lumière, qui est le chemin, la vérité, la vie. Et il n'y en a pas d'autre. Et c'est lui qui va donner cette énergie vitale que tous les parents rêvent de voir dans leurs enfants.
Voilà, alors c'est pour ça que nous finissons pour commenter cet évangile avec ce dernier verset. Ils en furent, Maud, complètement bouleversés. C'est-à-dire que c'est pas bah tiens, elle a été guérie, bah c'est bien, bah tant mieux, voilà, on passe à autre chose. Non, c'est que le témoignage de cette résurrection, de cette dilatation de vie par la rencontre du Christ est bouleversante. Combien nous sommes témoins de la joie qui peut habiter le cœur des parents dont les enfants ont rencontré le Christ et qui sont dilatés par le Christ, et combien le témoignage de ces enfants, je dirais, interpelle, bouleverse, parce que vraiment, on se rend compte que c'est là où est la vraie liberté de vie.
Oui, et puis on découvre un bonheur de voir ces enfants grandir dans cette liberté et puis cette justesse de choix, parce que forcément tout après se met en ordre, mais c'est un bonheur extraordinaire, et de ne pas avoir d'inquiétude, parce qu'on sait que une fois qu'ils sont avec le Christ, eh bien, nous pouvons avoir vraiment une immense confiance, parce que ils vont avoir les outils pour avancer dans la vie, pour traverser les épreuves, pour faire les bons choix. Alors peut-être, bien sûr, qu'ils vont tâtonner, bien sûr qu'ils vont se prendre des coups, comme tout le monde et comme nous-mêmes, mais ils ont quand même bien avancé sur ce chemin. Et c'était une des remarques d'une maman qu'on a croisée il n'y a pas très très longtemps, que j'ai trouvée très bouleversante. Elle me dit, mais tout ce que j'ai mis tant d'années à découvrir, mais pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas dit plus tôt? Et je pensais avec elle, pour nos enfants, nous pouvons leur faire gagner ce temps en leur disant beaucoup plus tôt quel est le vrai bonheur, quel est le vrai chemin de vie et de résurrection, tel que celui qu'a vécu la fille de Jaïr.
Je m'en mets toujours notre aîné qui a quitté la maison après le bac pour faire ses études, et qui, ayant intégré une école supérieure, à un moment revient un jour à la maison et nous dit quelle chance j'ai. Non seulement je fais des études qui sont éminemment intéressantes, mais je me rends compte que je construis ma vie dans une liberté qui est celle du Christ. Par rapport à tous mes amis, tous ceux qui m'entourent, etc., dont la très grande majorité connaît pas le Christ, mais je me rends compte de la liberté que j'ai. Et combien cette liberté est enviable. Voilà. Et combien de rencontres avons-nous fait depuis 25 ans de tant de jeunes. Et à la fois, vis-à-vis de jeunes qui ne connaissent pas Jésus et qui galèrent dans leur tête sur « mais c'est quoi le sens de la vie ? C'est quoi le sens de l'amour ?» etc., etc. Et qui sont angoissés par rapport à ces questions-là. Et au contraire, ceux qui ont rencontré le Christ et qui ont une vie complètement dilatée. Mais c'est l'essentiel de la vie. Voilà.
Voilà, et c'est souvent, c'est vrai, on nous demande « mais comment faire pour que les ados rencontrent le Christ ? Comment faire pour que les enfants puissent aller vers le Seigneur ?» Alors, c'est vrai qu'il faut prendre les moyens, et il faut se bouger. Et si jamais la vie ecclésiale locale ne les tente pas, ne leur apporte pas grand-chose, eh bien tant pis, on fait des kilomètres, on va faire des sessions, on les envoie dans des rassemblements de jeunes, on se bouge et on met ça comme une priorité. Et si c'est une priorité, on multiplie les occasions pour que eux, à un moment, souvent d'ailleurs en dehors des parents, ils puissent vivre leur vrai chemin de retournement, leur vraie rencontre, et qu'ils entendent comme Jésus a dit à Zachée, « Aujourd'hui, je viens demeurer chez toi. » Et quand un enfant revient en disant « Papa, maman, ça y est, j'ai trouvé le Christ », je vous assure que c'est une joie extraordinaire dans la famille.
Voilà, donc... En finissant ce commentaire, il faudrait beaucoup plus de temps encore pour accueillir toute cette parole de Dieu, sa richesse. Il faut entendre ce que Jésus a dit à Pierre, parce qu'il le dit à chacun des parents. Paie mes brebis, conduis mes brebis. Voilà. C'est notre appel en tant qu'apôtres qui présidons l'église domestique de nos familles. Voilà. Nous avons à entendre de qui nous tirons notre paternité et notre maternité. C'est du Christ lui-même. Parce que nous sommes unis dans le sacrement de mariage, c'est de lui que nous tirons cette paternité et notre ministère. Et pour finir, entendons cet appel fantastique de Jean-Paul II, qui vraiment souligne la source spirituelle, charismatique et de la foi de notre appel en tant que parents.
Époux, vous devez naître de l'Esprit Saint. Père et mère sont les premiers témoins et ministres de cette nouvelle naissance dans l'Esprit Saint. Vous qui engendrez les enfants dans leur vie humaine, n'oubliez pas que vous les engendrez aussi pour Dieu.
Voilà, c'est sur cet appel de Jean-Paul II, si fervent, que nous vous saluons et nous demandons vraiment au Seigneur de venir vous bénir dans tous vos chemins et dans votre ministère. Et que le Seigneur en tout vous conduise. À la semaine prochaine.